L'Assemblée escuchará el...
L'Assemblée va maintenant entendre le discours de Monsieur Petro Poroshenko, président de l'Ukraine, et je demande au protocole d'accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à M. Petro Poroshenko, président de l'Ukraine, que j'invite à prononcer son allocution devant l'Assemblée générale.
Distinguished Mr. President.
Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs, au nom de l'Ukraine, je présente mes félicitations sincères à M. Mogens Liketov à l'occasion de son élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je souhaite, Monsieur le Président, que vous remportiez tout succès dans votre activité à cette heure historique. Notre avenir dépendra largement des résultats de cette session et de nos décisions collectives. Allons-nous choisir de nous engager sur la voie de la paix, de la sécurité et des droits de l'homme ou allons-nous plonger dans les perturbations de nouvelles guerres hybrides, de chaos et de souffrance ? Monsieur le Président, au moment où nous souhaitons l'anniversaire de l'organisation, je suis fière de parler au nom de l'un des membres fondateurs des Nations unies. En 1945, mon pays a participé activement à la conférence de San Francisco et a contribué à la création de l'organisation et en a jeté les fondations. Mon pays a beaucoup ajouté à San Francisco pour donner forme à la Charte des Nations unies et à ce qui en est le cœur, ses buts et principes. Malheureusement, je parle également aujourd'hui au nom d'un État membre des Nations unies qui est victime d'une violation brutale des normes et principes fondamentaux de la Charte des Nations unies. Lorsque l'Ukraine a rejoint les Nations unies comme membre fondateur de l'organisation, elle a prononcé un discours à la conférence de San Francisco dans lequel elle soulignait, et je cite, « L'Ukraine, au cours de son histoire, a été souvent victime d'invasions sanglantes par des agresseurs qui, au long des siècles, ont essayé de capturer, d'annexer son territoire. » Fin de citation. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis cet événement historique, mais aujourd'hui, je suis obligée de rappeler que mon pays est victime d'une agression extérieure. Cette fois-ci, l'agresseur, c'est la Fédération de Russie, notre voisin, ancien partenaire stratégique, qui s'était engagé juridiquement à respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance et l'inviolabilité des frontières de l'Ukraine. Ce pays était le garant de la sécurité de l'Ukraine en vertu du mémorandum de Budapest qui prévoyait des garanties de sécurité à mon pays en échange d'une renonciation volontaire au troisième arsenal nucléaire mondial. De plus, ce pays est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, chargé par la Charte des Nations unies du maintien de la paix et de la sécurité internationale. En février 2014, la Russie a mené contre mon pays une agression ouverte sans qu'il y ait eu de provocation auparavant, en occupant et annexant la Crimée. Cette violation patente et brutale du droit international a choqué la communauté mondiale tout entière. Et je remercie du fond du cœur toutes les délégations de la majorité des États membres de l'organisation qui, l'année passée, ont appuyé la résolution de l'Assemblée générale intitulée « Intégrité territoriale de l'Ukraine », une résolution qui condamnait l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Il est regrettable que, après ce verdict clair de la communauté internationale, la Russie ne soit pas revenue sur le terrain du droit international. De plus, Moscou s'est lancée dans un nouveau jeu dangereux militaire, cette fois-ci dans la région du Donbass de l'Ukraine. Même si jusqu'à aujourd'hui, la Russie refuse d'admettre officiellement qu'elle a procédé à une invasion militaire directe, il ne fait aucun doute aujourd'hui qu'il s'agit d'une guerre d'agression contre mon pays, contre l'Ukraine. Pour tromper la communauté mondiale, les dirigeants russes ordonnent à leurs soldats de retirer leurs insignes, d'effacer du matériel militaire les marques d'identification. Les soldats qui sont capturés sont abandonnés sur le terrain des opérations et la Russie utilise cyniquement des crématoires mobiles pour éliminer toute trace de ces crimes sur le terrain de l'Ukraine. Je souligne que ce n'est ni une guerre civile ni un conflit interne. Les territoires ukrainiens de la Crimée et du Donbass qui ont été occupés par la Russie représentent à peu près 44 000 km². Des millions d'Ukrainiens se sont retrouvés sous l'occupation. L'objectif de cette guerre est d'obliger le peuple ukrainien à renoncer au choix souverain qu'il avait fait, celui de construire un État européen libre, démocratique et prospère. Tout cela sur fond de rhétorique traître sur la fraternité des peuples, sur le caractère commun de notre histoire, sur le fait que nos langues sont proches et sur le fait que nous avons un avenir commun par prédestination. En fait, ici, nous avons affaire au souhait de revenir à l'époque impérialiste avec des sphères d'influence. Il s'agit d'une tentative désespérée de s'affirmer soi-même au détriment des autres. Voilà plus de 20 mois que l'agression de la Russie contre mon pays continue par le truchement du financement des terroristes et de mercenaires. La Russie livre des armes et du matériel militaire aux groupes armés illégaux du Donbass. Ces dernières années, nous avons entendu la partie russe faire des déclarations de conciliation, notamment demander la création d'une coalition antiterroriste ou des avertissements contre le danger qu'il y a à flirter avec les terroristes. Quelle belle histoire, mais elle est bien difficile à croire. Comment pouvez-vous demander la création d'une coalition antiterroriste si vous inspirez le terrorisme devant votre propre porte? Comment pouvez-vous parler de paix et de légitimité si votre politique consiste à faire la guerre en installant des gouvernements fantoches? Comment pouvez-vous parler de la liberté des nations si vous punissez votre voisin pour les choix qu'il a faits? Comment pouvez-vous exiger que l'on respecte tous si vous-même vous ne respectez personne? L'évangile selon saint Jean enseigne « Au commencement était le Verbe ». Mais quel est le genre d'évangile que vous prêchez au monde si toutes les paroles que vous prononcez sont à double sens? Je reviens à la situation dans le Donbass. Je suis obligé de dire que ici, ce que nous sommes obligés de combattre, ce sont les troupes régulières, armées jusqu'aux dents de la Fédération de Russie. Sur les territoires occupés, des armes lourdes et des matériels militaires sont concentrés dans des quantités qui feraient rêver la majorité des États membres des Nations Unies. On y trouve notamment des exemples ultra-modernes de matériel militaire produit en Russie, et il est difficile de croire ce qu'avance le président russe, qu'il puisse avoir été acheté dans une armurerie ordinaire, sauf évidemment s'il s'agit d'un magasin de gros situé en Fédération de Russie avec frais de port gratuits. Au cours de cette période, plus de 8000 Ukrainiens, dont plus de 6000 civils, ont perdu la vie à cause des terroristes appuyés par les Russes et des occupants du Donbass. Plus d'un million et demi de résidents du Donbass ont été obligés de fuir leur foyer et sont devenus des personnes déplacées à l'intérieur des frontières, se sont déplacées dans d'autres régions plus sûres de l'Ukraine. et je voudrais en cette occasion exprimer ma gratitude à la communauté internationale pour les efforts considérables qu'elle a consentis pour apporter une assistance bien nécessaire à ceux qui en ont besoin. Par ailleurs, j'invite l'Organisation des Nations Unies ainsi que les autres acteurs internationaux à continuer d'accorder une attention toute particulière à ce problème très important. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas la première fois que ce membre permanent du Conseil de sécurité sape la paix et la sécurité, que ce soit sur le plan régional ou sur le plan international. Plus de 24 ans se sont écoulés depuis l'adoption de la discutable procédure du transfert du siège permanent au Conseil de sécurité qui auparavant appartenait à l'Union soviétique à la Fédération de Russie. Et ce n'est pas la première guerre hybride lancée par la Russie. En fait, pour préserver sa sphère d'influence dans les pays voisins, voilà des décennies que la Russie installe autour d'elle une ceinture d'instabilité. J'ai nommé le Haut-Karabakh, la Transnistrie, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, la Crimée et le Donbass. Il s'agit là, dans tous les cas, de conflits prolongés, appuyés par la Russie ou directement menés par la Russie. Mais le Kremlin va plus loin. Aujourd'hui, les petits hommes verts russes foulent le sol syrien. Qu'est-ce qui va venir après et qui sera le suivant ? Monsieur le Président, dans tout pays démocratique, si on vous vole vos biens, il y a un tribunal indépendant qui ramène la justice, qui protège les droits et qui punit l'agresseur. Toutefois, nous devons reconnaître qu'au XXIe siècle, notre organisation ne dispose pas d'un instrument efficace permettant de faire justice à un pays agresseur qui s'est emparé du territoire d'un autre État souverain. Il y a 70 ans, les auteurs de la Charte des Nations Unies avaient conçu le mécanisme des sanctions du Conseil de sécurité comme l'un des outils de retenue qui doit être appliqué dans les cas d'atteinte à la paix ou dans des cas d'actes d'agression. Toutefois, ils n'avaient même pas pu imaginer que cet outil même serait utilisé contre l'État agresseur ou un État agresseur, membre permanent du Conseil de sécurité. Depuis le début de l'agression, la Russie a utilisé son veto à deux reprises. Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies examinait des questions liées à l'Ukraine. La première fois, la Russie a bloqué un projet de résolution condamnant l'imposture du référendum sur l'annexion de la Crimée en mars 2014. Moi, personnellement, en tant que membre du Parlement de l'Ukraine, à ce moment-là, donc c'est à ce moment-là qu'ils ont dit qu'il s'agissait d'un vote sur ce référendum. Il n'y avait pas de députés, il y avait simplement le Parlement de Crimée était entouré par des soldats. La deuxième fois, la Russie a imposé son veto honteux sur le projet de résolution sur la mise en place d'un tribunal international chargé d'enquêter et de faire justice contre tous les responsables de l'accident du vol MH17 de la compagnie malaisienne. En imposant ce veto honteux sur ce projet de résolution, la Russie a fait la preuve claire qu'elle défiait le monde entier et qu'elle ne souhaitait pas établir la vérité, et pas seulement la vérité sur les auteurs de cet attentat terroriste et sur les armes utilisées pour abattre l'avion. Ce qui est plus important, c'est qu'il s'agit de la vérité sur ceux qui ont organisé ce crime et à partir du territoire desquels les armes en question avaient été transportées. Je pense que ici, tout le monde comprend les vrais motifs du veto mis par la Russie sur le tribunal sur le MH17. De plus, la mise en place d'une opération internationale de maintien de la paix qui pourrait stabiliser la situation en Ukraine et arrêter l'effusion de sang a été bloquée car on craint que la Russie utilise son veto. L'abus du droit de veto, son utilisation comme permis de tuer est absolument inacceptable. La voix collective de notre organisation doit être absolument claire. l'Ukraine est favorable à la limitation progressive du droit de veto avec ultérieurement son annulation. Le droit de veto, le pouvoir d'utiliser son veto ne doit pas devenir un acte de grâce pour ceux qui commettent un crime et qui peut être utilisé à tout moment, sorti comme ça d'une manche pour éviter une sanction qui serait légitime. Dans ce contexte, je me félicite de l'initiative de mon collègue français, le président Hollande, appuyé par le président Peña Nieto du Mexique sur la déclaration politique pour limiter le droit de veto parmi les membres permanents du Conseil de sécurité dans les cas d'atrocités de masse. Il faut accorder une attention d'urgence à la modernisation du Conseil de sécurité, notamment son élargissement et l'amélioration de ses méthodes de travail. La composition du Conseil de sécurité doit être conforme aux réalités du 21e siècle en représentant un plus grand nombre d'États d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Il faut que le groupe des pays d'Europe de l'Est reçoive un siège non permanent supplémentaire au sein du Conseil. Dans les 20 ans qui viennent, sa composition doit être multipliée par deux. L'Ukraine considère que l'amélioration de l'architecture du maintien de la paix et du retour à la paix de l'organisation est un élément très important de la réforme de l'ONU. Et je m'enorgueillis de ce que la réputation internationale de l'Ukraine en tant que contributeur actif et dévoué des opérations de maintien de la paix. Malgré nos défis extérieurs, nous restons fiables, un partenaire fiable de l'organisation dans cette cause noble. La contribution de l'Ukraine au maintien de la paix et de la sécurité internationale nous donne des motifs moraux de compter sur la même assistance de la part de l'organisation en une période d'une importance essentielle pour mon pays. Une mission de maintien de la paix au Donbass, placée sous l'égide des Nations Unies, pourrait être un instrument très utile de mise en œuvre des accords de Minsk. L'Ukraine est engagée à suivre l'accord de Minsk dans la lettre et dans l'esprit. Et nous exigeons la même approche des autres signataires qui, ces derniers temps, utilisent la langue du chantage. Sinon, il n'y a pas d'alternative aux sanctions. De même, il n'y a pas d'alternative à la résolution pacifique de la crise. Les membres de l'OSCE doivent avoir un plein accès au territoire occupé. Les forces militaires russes doivent se retirer, ainsi que le matériel militaire et les mercenaires doivent se retirer du territoire de l'Ukraine. Et il est impératif que l'Ukraine reprenne pleinement le contrôle de son territoire et de la frontière avec la Russie. La liberté, la paix, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, c'est tout ce que demande l'Ukraine, mais nous n'accepterons pas moins. Monsieur le Président, malheureusement, ce n'est pas de son plein gré que l'Ukraine est une zone de lutte contre la menace terroriste. Nous condamnons le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. Les activités de l'État islamique, d'Al-Qaïda, de Boko Haram, d'Al-Shabaab et d'autres représentent un défi mondial. La seule façon possible de relever ce défi, c'est de nous engager unis et ensemble dans une lutte sans compromis contre ce fléau. Le terrorisme international s'est montré plus souple, plus agile que la volonté politique des nations et aujourd'hui il revêt de nouvelles formes hybrides. Les acteurs étatiques et non étatiques sont liés entre eux. La lutte pour les droits de l'un sont remplacés par une terreur sans nom. Nous sommes convaincus que il est absolument urgent d'adopter un instrument international universel pour lutter contre ce crime. Et c'est la raison pour laquelle l'achèvement du travail préparatoire sur un projet de convention des Nations Unies sur la prévention et la lutte du terrorisme doit devenir l'une des principales priorités de cette 70e session. et la Cour internationale de justice ainsi que la Cour pénale internationale doivent recevoir un rôle particulier dans la lutte contre le terrorisme international. Il est important que ces institutions deviennent universelles pour lutter contre l'impunité de ceux qui violent le droit international, les vrais donc, auteurs des violations et ceux qui les appuient, les régimes dont les politiques nationales consistent à produire de la terreur en masse. Et je suis convaincue que l'un des aspects les plus importants de la lutte contre le terrorisme, c'est de partager et de respecter la mémoire des victimes. Et dans ce contexte, je propose que cette 70e session de l'Assemblée générale envisage la création, la proclamation d'une journée internationale de la commémoration de la mémoire des victimes des attentats terroristes. C'est avec un sentiment, le sentiment de l'humiliation et de la violation des droits fondamentaux qui a jeter les Ukrainiens dans la rue pour aller manifester en 2013 et qui est une révolution qui a, ce qui a marqué le début de la révolution de la dignité. L'Ukraine continue d'en payer un prix élevé pour sa liberté, pour le droit de vivre comme un pays libre. Elle paye le prix de vie humaine. Et c'est la raison pour laquelle les intérêts de chaque personne et la protection de tous les droits sont à la base du programme de réforme que nous avons lancé il y a un an. Pour la première fois en 24 ans d'indépendance, l'Ukraine a adopté une stratégie nationale en matière de droits de l'homme. Une stratégie qui tient compte des meilleures pratiques internationales en matière de droits de l'homme, notamment le cadre stratégique de l'Union européenne sur les droits humains et la démocratie. L'agression russe a mis en évidence le problème des droits de l'homme en Crimée et dans certaines régions de Donetsk et de Lugansk. Des organisations internationales en matière de droits de l'homme alerte sur la détérioration dramatique de la situation des droits de l'homme qui s'applique directement aux Ukrainiens et aux Tatars de Crimée en Crimée occupée. Je parle particulièrement de la pratique utilisée par les autorités d'occupation en Crimée, qui consiste à forcer à prendre la nationalité russe, les persécutions systématiques, les arrestations, les enlèvements, les meurtres de résidents pro-ukrainiens dans la péninsule et l'élimination totale des médias indépendants. L'Ukraine réaffirme son attachement à la déclaration sur les droits des peuples autochtones. Par tous les moyens juridiques, nous allons continuer de défendre les droits des Tatars de Crimée, peuple autochtone d'Ukraine, et des Ukrainiens qui sont victimes des politiques de répression des autorités d'occupation en Crimée. J'espère que la décision de traiter de cette question sera prise lors de cette session. Et j'espère également... Je me sens également obligée de citer les noms de Nadia Savchenko, d'Oleg Sentsov, d'Alexandre Kolchenko et d'un grand nombre d'autres Ukrainiens prisonniers politiques du Kremlin, détenus et condamnés illégalement. Par exemple, Oleg Sentsov, un metteur en scène respecté, a été condamné à 20 ans de prison pour le simple fait qu'il était un patriote ukrainien. Et j'invite les Nations Unies et les États membres de l'organisation à lancer une campagne mondiale de pression sur les autorités russes et de leur demander de libérer immédiatement tous les citoyens ukrainiens pris en otage. Nous n'atteindrons notre objectif que si nous agissions à l'échelle mondiale. Et surtout, l'Ukraine a besoin de solidarité et d'assistance qui sont des instruments de choix contre l'agression et l'injustice. Je ne doute pas que l'Ukraine gagnera, car la vérité est de notre côté. Mais nous le ferons beaucoup plus vite, nous y parviendrons beaucoup plus vite, si nous ressentons le soutien et la solidarité de toute la communauté internationale. La guerre hybride menée actuellement par la Russie contre l'Ukraine a montré que la communauté internationale est confrontée à un nouveau défi qui exigera que nous rassemblions nos efforts. La guerre massive d'information et la campagne de propagande, voilà qui représente de nouvelles formes particulièrement destructives d'agression non militaire. Nouvelles faussées, mensonges évidents pour justifier l'agression, propagande de l'intolérance et de la violence. Voilà des phénomènes de la même, du même acabit qui remettent en question les principes de la liberté d'expression et qui intoxiquent les âmes et les esprits humains. C'est la raison pour laquelle la tâche du renforcement du rôle de l'information pour le maintien de la paix et de la sécurité est plus importante que jamais. Et j'invite l'Assemblée générale à condamner dans les termes les plus forts ce phénomène honteux et à discuter des moyens d'attaquer le problème. Monsieur le Président, malgré les défis extérieurs auxquels l'Ukraine est confrontée et que j'ai décrits précédemment, l'Ukraine est parfaitement engagée dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Nous sommes prêts à partager la responsabilité commune qui nous revient de trouver des solutions aux problèmes et aux priorités très importantes des groupes les plus vulnérables de pays, par exemple des petits États insulaires. L'Ukraine est membre du groupe Amis du Climat et à ce titre, nous espérons pouvoir trouver un consensus sur un accord universel dans les meilleurs délais sur les changements climatiques. Nous espérons que c'est un résultat que nous obtiendrons, que tous les États membres des Nations Unies obtiendront en décembre à Paris. Et nous devons comprendre que le prix à payer serait la sécurité des générations de demain et le développement pérenne de l'humanité. La trajectoire vers l'atteinte des objectifs du développement durable ne s'achèvera pas positivement si on ne surmonte pas et on ne prévient pas les conséquences des catastrophes technologiques et environnementales. Du fait de l'agression russe, l'Ukraine est confrontée à un autre problème, la protection de l'environnement dans le Donbass. Les terroristes inondent de façon criminelle et irresponsable les mines, si bien que l'eau potable, la terre, les sols, la flore, la faune sont contaminés. L'atmosphère est polluée à cause des explosions et à cause des bombardements sur des infrastructures industrielles sensibles. En fait, nous pouvons dire qu'il y a un risque de catastrophe environnementale. Et je suis convaincue que la question de la protection de l'environnement dans les conditions de conflit doit retenir l'attention toute particulière de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement. Et parlant de catastrophe technologique, je ne peux passer sous silence l'un des accidents les pire que l'on ait connu. L'année prochaine, nous marquerons une date bien triste, le 30e anniversaire de la tragédie de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et je voudrais vous demander, Monsieur le Président, de tenir une séance spéciale de l'Assemblée générale consacrée au 30e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl en avril 2016. Lorsque mon pays est devenue membre des Nations Unies, dans l'allocution, elle a dit ce qui suit. L'Ukraine, avec sa force humaine très grande et avec ses grandes ressources matérielles, aura la capacité d'apporter une contribution importante au maintien de la paix et de la sécurité mondiale. Fin de citation. Tout comme il y a 70 ans, je redis l'engagement sans faille de l'Ukraine à entreprendre le maximum d'efforts pour sauver les générations de demain du fléau de la guerre inscrite dans la Charte des Nations Unies. L'atteinte de ce noble objectif sera la pierre angulaire du mandat de l'Ukraine à un siège non permanent au Conseil de sécurité, si elle est élue, pour la période 2016-2017. En cette capacité, l'Ukraine restera un partenaire cohérent, fiable, guidé non pas par son propre agenda, mais par les intérêts du monde entier, et qui suivra résolument l'esprit et la lettre de la Charte. Et je suis fermement convaincue que l'organisation passera avec dignité les épreuves complexes qu'elle connaît, renforcera son rôle en tant que garant de l'ordre mondial, de la paix et de la prospérité. Que tout Dieu soit avec nous. Gloire à l'Ukraine.
Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président de l'Ukraine pour la déclaration qu'il vient de le faire et je prie les délégués de bien vouloir rester assis alors que nous prenons congé du président.